La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not bla bla bla. Bla bla bla.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Aujourd'hui, je vous lis des extraits du livre de Sébastien Boller intitulé Human Psycho, ou comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète. Sébastien Boller est un ancien élève de l'école polytechnique et docteur en neurosciences. Il est journaliste chroniqueur, conférencier et écrivain. Rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, il fut également chroniqueur sur France Inter et sur Arte. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Neuroland, L'homme qui haïssait le bien, Le bug humain et Où est le sens, il apporte sur la question du devenir de notre humanité un éclairage aussi déstabilisant que nécessaire. Dans Human Psycho, Sébastien Boller cherche à comprendre pourquoi l'humanité ne parvient pas à stopper son pouvoir de destruction. Dérèglement climatique, hausse des températures, montée des eaux, pandémie, nous allons droit à la catastrophe et nos efforts individuels n'y changent rien. Dans Human Psycho, Sébastien Boller éclaire les raisons de cette situation. Eh bien voilà, l'humanité possède les traits caractéristiques d'un psychopathe. Sentiment de supériorité, tendance à exploiter les autres, absence d'empathie, non prise en considération des conséquences de ses actes. Si l'on veut trouver une porte de sortie et éviter le pire, il faut soigner de toute urgence cette humanité malade. Au cœur du super-organisme humain. Ce livre postule que l'humanité est une entité qui se développe, qui agit et qui pense de manière autonome. Son fonctionnement, à l'humanité, est potentiellement très différent de celui des individus humains. La question est de savoir quel est ce fonctionnement global de l'humanité. Pour y arriver, nous devrons nous efforcer de considérer l'humanité d'un point de vue extérieur, comme un entomologiste observerait les déplacements de la fourmilière. Quelles sont les motivations de cette chose, l'humanité, prise dans son ensemble? Comment agit-elle, cette humanité? Que ressent-elle? J'ai donc postulé que l'humanité possède un psychisme, qu'elle a des émotions, un langage, une vie mentale et déploie un certain nombre de comportements qui lui sont propres. Que même si elle est immense et éparse, elle fonctionne comme un être à part entière qui poursuit délibérément ses propres intérêts. Analyser un tel être, l'humanité, relève d'une démarche de clinicien. Et selon cette démarche clinique, j'ai passé au crible les quatre grands aspects que l'on peut observer chez un patient. Son langage, sa cognition, c'est-à-dire sa vie mentale, ses émotions et son comportement. C'est en suivant ce procédé que j'ai vu émerger quatre grandes caractéristiques qui définissent la structure psychique fondamentale de l'humanité. Et cette structure va conditionner tous nos rapports avec la planète et avec le vivant. Les quatre caractéristiques fondamentales de l'humanité. Premièrement, l'humanité a-t-elle un langage? Oui, et depuis longtemps. Non pas celui des hommes et des femmes qui la composent, mais celui des grands messages qu'ensemble ils créent, se transmettent et qui forgent le socle des civilisations. En ce sens, l'humanité a toujours tenu un discours sur elle-même. On en trouve les traces notamment dès les premiers textes sacrés. Ce qui y transparaît de manière frappante, c'est que l'humanité semble avoir une très haute opinion d'elle-même. Depuis les origines de la civilisation et dès les premières traces écrites dont on dispose, l'espèce humaine se place tout simplement au sommet du règne vivant. Elle se définit comme supérieure aux plantes et supérieure aux animaux. Ce discours traversera toute l'histoire de l'Occident jusqu'au philosophe René Descartes qui, au XVIIe siècle, définit l'homme comme celui qui est maître et possesseur de la nature. Deuxièmement, Dans le domaine de la cognition, c'est-à-dire la vie mentale, ce qui caractérise au plus haut point l'humanité et qui a atteint son paroxysme dans la société hyperconnectée du troisième millénaire, c'est le génie de la manipulation, de l'outil et de la technique. C'est un fait. Notre espèce a un talent infaillible pour instrumentaliser la nature. Depuis les débuts d'Homo habilis, il y a 2 millions d'années, tout ce qui vit sur Terre, dans les airs ou dans la mer, organismes vivants et minéraux, est tôt ou tard transformé pour servir l'intérêt de l'humain. Des enclos pour enfermer les bêtes, des instruments pour les tuer, les dépecer, des trépans pour forer le sol, des turbines pour exploiter la force hydraulique, des moteurs pour exploiter l'énergie des hydrocarbures, des procédés pour extraire des métaux, des machines pour fabriquer d'autres outils, des manipulations, c'est le terme scientifique, pour synthétiser des produits chimiques afin de tirer le meilleur profit des semences, des recherches pour modifier les gènes des animaux, etc. La technique est la marque de fabrique de l'humanité. En chaque chose qui existe sur cette terre, l'humanité voit un moyen de transformation, un objet à manipuler. Dans son lien à la planète, l'humanité exerce clairement un rapport de manipulation. Troisièmement, sur le plan émotionnel, l'humanité se caractérise par un manque profond d'empathie. Homo sapiens se comporte à l'égard de la planète et de toutes les formes de vie qu'il habite avec une totale absence de compassion. Je ne parle pas ici des individus faits de chair et d'os, qui pour la plupart ont un cœur et sont doués d'empathie. Je veux parler de l'humanité collective, considérée comme une entité, qui jamais ne réfrène ses actions lorsque celles-ci se traduisent par une souffrance pour les autres espèces vivantes. Qu'il s'agisse des conditions d'élevage des animaux, de la déforestation, du braconnage, de la destruction d'habitats naturels entiers, du rejet de produits toxiques qui ravagent la faune et la flore, de l'éventrement des montagnes et des décharges à ciel ouvert, des saumons au foie imbibés de plomb, des tortues ingurgitant du plastique rejeté par l'industrie pétrochimique, ou des ours se nourrissant sur les tas d'ordures des cités post-soviétiques. Cette réalité-là ne ralentit pas les projets de la masse humaine auto-organisée. Car cette masse, cette structure démesurée mobilisant agents, infrastructures, machines-outils, commandes électroniques, programmes informatiques, n'obéit à aucune forme d'empathie qui, d'ordinaire, conduit un individu à retenir son geste lorsque celui-ci cause une souffrance à un autre. Et encore une fois, le fait que nous, petits humains devant nos écrans, en soyons émus en regardant les informations, n'entre pas en ligne de compte, puisque, rappelons-le, une propriété émergente d'un système est généralement sans rapport avec les propriétés de ses constituants élémentaires. Enfin, la quatrième caractéristique de l'humanité est sa tendance à agir en fonction d'impératifs ou de réactions instantanées, dans le but de tirer de cette action un profit immédiat. Acte toujours perpétré au mépris des conséquences sur le futur. En psychologie, on parle d'impulsivité. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que dans toutes les situations qu'elle rencontre, notre espèce agit en fonction de son intérêt immédiat et à court terme. De ce qu'elle crée, elle entend tirer le maximum et le plus rapidement possible. Si l'exploitation d'un gisement ou d'une forêt peut être réalisée dans des délais brefs et en apportant un bénéfice immédiat, fût-ce au prix de la destruction de tout un écosystème, d'un réchauffement fatal de l'atmosphère, d'une perte de biodiversité ou de l'emploi de pesticides qui auront des conséquences terribles dans plusieurs décennies, on passe à l'acte. Si une nouvelle technique de modification de l'ADN permet de produire plus de nourriture dans le même temps et que l'on ignore en quoi ces nouveaux variants pourront perturber les écosystèmes ou la santé dans 50 ans, on applique. Et si l'ensemble de ces actes conduit à détruire la planète de A à Z, ce n'est pas un problème, du moment qu'on en retire un bénéfice immédiat. Voilà à grands traits ce qui saute aux yeux lorsqu'on examine l'humanité sur le plan du langage, de la cognition, de l'émotion et de l'action. nous avons devant nous un être à l'ego démesuré, obsédé par la manipulation, dénué d'empathie et totalement impulsif. Que signifie cet ensemble de traits caractéristiques ? Pour qui est rompu aux notions classiques des neurosciences et de la psychiatrie, le diagnostic est évident. En réalité, tellement clair qu'on aurait envie d'arrêter là notre analyse, de refermer ce livre et de penser à autre chose. Car ce qui se dessine sous nos yeux, c'est le portrait exact d'un psychopathe. Les signes de la psychopathie, égo, manipulation, absence d'empathie et irresponsabilité. Voilà le quatuor fatal de la psychopathie. Tellement reconnaissable que voir ces traits réunis chez un seul être donne la chair de poule. Si l'humanité est un être auto-organisé, et c'est ce qu'elle semble bien être, il s'agit de toute évidence d'une entité psychopathe. J'ai essayé par tous les moyens de contourner le problème. Mais il ne sert à rien de se mentir. Nous devons l'affronter. Et pour commencer, savoir ce qu'est la psychopathie, comment la comprendre, la délimiter, la cerner, et surtout savoir que faire lorsqu'on y est confronté. Les psychopathes fascinent. On se demande s'ils sont vraiment humains. On les dit intelligents. Beaucoup sont insérés dans la société civile où ils peuvent réussir grâce à une absence de scrupules et un vrai talent pour utiliser leurs semblables. D'autres tuent de manière impitoyable, avec en prime un luxe de cruauté. Ils peuvent faire des dégâts considérables avant d'être arrêtés. Il est clair que si une espèce entière adoptait le comportement d'un psychopathe, elle prendrait rapidement possession de tout ce qui se trouve à la surface de la planète en ne laissant aucune chance à ses occupants. Le psychisme des psychopathes est, répétons-le, armé de 4 lance-flammes qui carbonisent tout à la ronde. Un égo démesuré, une incroyable aptitude à manipuler les autres, une absence totale d'empathie et une tendance à agir de manière instantanée et sans tenir compte des conséquences. Ce sont ces 4 cavaliers de l'Apocalypse qui, mis entre les mains de l'humanité, sont en train de transformer notre planète en champ de ruines. Alors la question se pose, le monde, débarrassé de ces fléaux, peut-il être encore sauvé ?
Un café ? Un écroissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B, avec Gaëlle
et Lola.
Faut-il tuer Human Psycho ? Ou l'humanité, prise dans son ensemble, l'humanité psychopathe ? Après tout, certains soutiendront qu'un psychopathe ne mérite pas de vivre. Plutôt que laisser mourir la planète, pourquoi ne pas mettre à mort le psychopathe humain global ? Je tiens tout de suite à rassurer tout le monde. Il ne s'agit pas d'exécuter qui que ce soit. Le super-organisme qui est en train de tout mettre à bas est un tissu d'humains. Et le dissoudre ne suppose aucunement de s'en prendre aux humains eux-mêmes. Je me suis longtemps demandé si cet être avait réellement une conscience, des intentions, des pensées et des sentiments. Je n'en sais rien. Mais la question pourrait se poser de la même façon à propos de la conscience et des sentiments d'un psychopathe avéré. Sans doute sont-ils très différents des nôtres. Lorsqu'on n'a pas conscience de faire le mal, lorsqu'on n'a pas conscience de l'avenir, quand on déploie une vision totalement déformée de soi, comment perçoit-on le monde ? Cela, il est impossible que nous le sachions jamais. Dissoudre Human Psycho revient tout simplement à réduire le degré de connectivité de l'humanité, c'est-à-dire la densité des connexions et des échanges entre les humains. Nous vivons dans un monde hyper connecté, trop connecté, jusqu'à saturation. Télécommunications, communications par satellite, GPS, réseaux sociaux, messagerie, téléphone, échanges commerciaux incessants, sans limite de distance ni de temps. L'humanité est devenue un véritable cerveau qui palpite nuit et jour sans que cela se traduise par un véritable avantage pour qui que ce soit. Et c'est peut-être là que se situe le problème. Si ce méga-cerveau s'avère impossible à rééduquer, nous pouvons décider de le dissoudre, sans aucunement porter préjudice aux personnes. Moins communiquer, changer la vocation d'Internet en insistant sur le transfert d'informations pratiques et non récréatives, en préférant l'écrit au format vidéo et privilégier les échanges commerciaux à petite échelle. S'intéresser aux personnes de son entourage direct plutôt qu'à des communautés d'inconnus réparties à travers le monde. Renoncer aux structures multinationales pour l'exploitation des ressources. Éviter le transport de marchandises sur des dizaines de milliers de kilomètres. Tout cela représente une baisse de connectivité, pour faire une analogie avec la notion de connectivité cérébrale, empruntée aux neurosciences. Human Psycho cesserait peut-être alors, tout simplement, d'exister. De nombreux exemples de cette approche existent aujourd'hui. Nous sentons diffusément que ménager la planète est possible, en produisant localement, en vivant localement, en cessant de parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour pour aller au travail, en se déconnectant des réseaux sociaux, en relocalisant des entreprises et des médecins. Il est probable que Human Psycho ne survivrait pas à un mouvement de relocalisation générale et en profondeur des sociétés humaines. Nous savons aujourd'hui que l'être humain s'est configuré pendant des millions d'années sur le plan cérébral pour vivre dans des groupes de 100 à 150 individus. Ces communautés, assistées de quelques améliorations technologiques, vivraient probablement plus heureuses que dans le réseau immense et global des mégalopoles ultra-connectées que nous connaissons de nos jours. Et Human Psycho, l'humanité dans sa globalité, ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Ces scénarios ne sont que des projections. Ce qu'ils nous disent est pourtant essentiel. L'avenir n'est pas condamné. Un ennemi colossal se dresse sur notre chemin, un psychopathe à faire frémir tous les serial killers d'Hollywood. Mais mieux vaut un ennemi bien identifié que l'indécision, les luttes intestines et les incohérences des humains. Alors que je finis d'écrire ce livre, j'écoute le journal d'information d'une importante radio de France. Depuis quelques jours, l'actualité est rythmée par la primaire du Parti écologiste, au terme de laquelle sera désigné le candidat sur qui reposent, a priori, les espoirs de sauver notre avenir. Fort bien. Or, la page d'information commence par une nouvelle qui enthousiasme les journalistes. La production d'avions Airbus de nouvelle génération qui va permettre de faire sortir 14 avions par mois des chaînes de montage du Canada. Au point que le carnet de commandes de la compagnie est déjà rempli par 640 exemplaires à livrer. Ce sujet sur l'aviation, qu'on se félicite de voir florissante pour continuer de saturer notre atmosphère de gaz à effet de serre, est aussitôt suivi d'une page spéciale sur un film consacré à l'icône du combat pour le climat, Greta Thunberg. Son enfance en proie à la dépression, le jour où elle a pris conscience de la destruction de la planète. Puis son engagement, ses grèves pour le climat. Magnifique. On espère être entré dans une forme de conscience et de responsabilité. Mais à ce moment arrive l'information capitale. Le PSG a battu Manchester City grâce à un but de Lionel Messi. Et les journalistes de s'écrier tous en chœur. L'Argentin a enfin débloqué son compteur. Débloquer son compteur de but. C'est finalement ce qui compte le plus quand on a terminé de s'interroger sur le sort du monde. Alors moi, je ne sais pas si Human Psycho, l'humanité psychopathe, a une conscience ou des émotions. Mais je suis sûre d'une chose. Si Human Psycho entend cela, il doit bien se frotter les mains.
Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Je vous conseille vivement les livres de Sébastien Boller, notamment bien sûr Human Psycho, mais aussi Où est le sens et Le bug humain. Je vous souhaite un bel été, sobre et vibrant, et je vous retrouve à la rentrée avec Lola, qui sera certainement revenue de vacances. À très bientôt sur les bonnes ondes.
La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
Have to change. We will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.